radicale vis-à-vis du temps. Être enfin en couple, avoir des enfants, l'horloge biologique tourne, trouver un travail ou avoir enfin un travail stable. Et puis vers la fin de la vie, le temps peut paraître trop long. On perd en efficacité, on se sent comme un poids pour nos proches, pour la société. On voudrait peut-être que notre temps soit écourté. Le temps, bien souvent, il semble contrarier nos plans. Si j'avais plus de temps, je pourrais entreprendre tel ou tel projet, atteindre tel objectif. Je pourrais passer plus de temps avec mes enfants, ou faire mieux mon travail, ou aider plus de gens, ou me consacrer à des activités créatives, faire plus de sport, que sais-je. Ou au contraire, si je pouvais avoir moins de temps, j'aurais moins l'occasion de broyer du noir, j'aurais moins l'occasion de vivre dans l'angoisse, ou bien je souffrirais pas autant dans mon corps. Quelle que soit notre frustration par rapport au temps, qu'il soit perçu comme trop court ou trop long, cela positionne le temps comme un obstacle dans notre vie qui vient contrarier nos plans. Et ces plans, dont j'ai donné quelques exemples, au fond, est-ce que ça ne serait pas un seul et même plan commun à tout le monde ? Quel est le plan ? Quelle est la quête la plus universelle qui soit ? Je crois que c'est la quête du bonheur. Cet état de satisfaction, de paix, de sécurité profonde, sans une ombre au tableau. Je voudrais vous partager une expérience personnelle par rapport au temps. J'avais 20 ans, et il y avait cet animateur de colo, beau, grand, intelligent, environ 30 ans, qui impressionnait toutes les jeunes filles, et bien sûr, je ne faisais pas exception à la règle. Et il y a une chose qui m'impressionnait particulièrement chez lui, c'était sa spiritualité. Je me souviens très clairement m'être dit, c'est bon, quand j'aurai son âge, j'aurai atteint ce niveau de spiritualité. J'ai le temps. 10 ans plus tard, je me souviens également très clairement avoir réalisé que j'étais très loin de l'objectif que j'avais prévu d'atteindre. S'en est suivi un profond sentiment d'échec, de culpabilité. Ça a même abîmé ma relation avec Dieu au lieu de la renforcer. Je crois que j'avais bien involontairement commis 2 erreurs. La première, c'est l'objectif que je cherchais à atteindre. Je considérais qu'il y avait des niveaux de spiritualité à atteindre, comme des grades sur un uniforme, reconnaissables, visibles par tous. Sans doute mon manque de maturité, manque de confiance en moi, un environnement ecclésial qui était propice aussi à ce genre de confusion. Résultat, je m'étais largement trompée d'objectif. La deuxième erreur, c'est que je croyais que je pouvais maîtriser le temps. 10 ans, c'est quand même 365 fois 10, soit 3650 jours. Donc, selon ma logique et mon expérience de la vie, ça devait être un temps suffisamment long pour atteindre cet objectif censé me rendre plus heureuse, car satisfaite dans ma relation avec Dieu. Mais je me trompais, et j'en ai fait l'expérience. Et elle a eu un goût très amer. Heureusement, le Saint-Esprit a continué son travail, et aujourd'hui, cette expérience, c'est une pierre importante sur mon chemin. Je vous propose qu'on aille maintenant à la rencontre de l'Ecclésiaste, qui a des choses à nous dire sur cette quête de la satisfaction et du bonheur, et sur la place du temps dans cette quête. Dans ce livre, l'auteur nous rapporte les propos d'un maître, présenté comme un roi d'Israël, riche, sage, puissant, qui a poussé sa réflexion, ses observations et son expérience de l'activité humaine jusque dans ses extrémités. Au chapitre 1 et au verset 13, on nous dit « Et je me suis appliqué à étudier et à examiner par la sagesse tout ce qui se fait sous le soleil. » Et voici ce qu'on peut lire dès le 2e verset du livre, autant dire en introduction. « Vanité des vanités, dit le maître, oui, vanité des vanités, tout est dérisoire. » Alors, ce n'est pas une introduction particulièrement accrocheuse, je trouve, surtout pour nous, habitants d'un pays occidental relativement riche, dans lequel on vit globalement en sécurité, où on peut espérer quand même bâtir une vie satisfaisante sur le plan professionnel, financier, etc. Et là, le maître, il nous annonce d'emblée que tout cela, c'est du vent, parce que ça ne dure pas. Alors en français, les adjectifs vain et dérisoire, ils ont clairement une connotation négative. Mais ici, ce que l'auteur pointe, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Il constate que toute l'activité de l'homme sur la terre est éphémère. Et par conséquent, elle est comme un souffle, elle s'évapore. Et il la met en opposition avec l'action de Dieu, comme on peut le lire au chapitre 3, verset 14. « Je sais que tout ce que Dieu fait demeurera toujours, mais pas l'action humaine. Comment le maître en est-il arrivé à cette conclusion un peu déroutante, voire rabat-joie ? Eh bien, il a entrepris cette quête dont je viens de parler. À l'instar du chanteur Christophe Maé, il s'est posé la question suivante. Il est où le bonheur ? Il est où ? Tout le monde recherche le bonheur. Tout le monde aspire à une vie heureuse. Les moyens supposés efficaces pour y accéder varient énormément d'une personne à l'autre. Ça peut être pour certains avoir une famille, une belle carrière professionnelle, des finances confortables, des possessions, ou bien voyager, ou avoir une vie de liberté avec un minimum de contraintes, ou juste vivre en sécurité. Mais le désir profond, il reste le même. Être heureux, satisfait, jour après jour, de la vie que l'on mène. Et nous, aujourd'hui, je crois qu'on a un grand privilège, c'est que le maître, décrit dans l'Ecclésiaste, il a mené cette quête avant nous, par de très nombreux moyens. Et nous ferions bien de nous intéresser de plus près à son expérience et à ses conclusions. Nous allons nous rendre au chapitre 3 du livre de l'Ecclésiaste, un passage bien connu où le maître développe le sujet du temps. Je lis. « Il y a un temps pour tout et un moment pour toute chose sous le soleil. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher le plant. Un temps pour tuer et un temps pour soigner les blessures. Un temps pour démolir et un temps pour construire. Il y a aussi un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour jeter des pierres et un temps pour en ramasser. Un temps pour embrasser et un temps pour s'en abstenir. Il y a un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour conserver et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour recoudre. Un temps pour garder le silence et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de la peine qu'il se donne ? » Dans ce passage, l'auteur présente 14 exemples d'activités humaines qui ont tantôt un aspect positif, tantôt un aspect négatif. Il nous dit que les circonstances que la vie nous impose nous amènent à vivre tout et son contraire. Avec ces duos d'activités un peu surprenants, construire puis démolir, déchirer puis recoudre, aimer puis haïr, l'auteur pointe l'incohérence de la vie humaine, soumise à des circonstances qui nous poussent à agir de façon parfois illogique. Et ces changements de circonstances auxquels nous sommes soumis sont également imprévisibles. C'est un thème central du livre de l'Ecclésiaste. Au chapitre 9 et au verset 11, il dit « Chacun rencontre tour à tour des circonstances favorables et des circonstances défavorables. En effet, l'homme ne sait pas ce qui l'attend. » L'Ecclésiaste ouvre les yeux et il constate « La vie est incohérente, elle est imprévisible et même souvent injuste. » Récemment, la crise du Covid lui a donné raison. Cette crise, elle aura eu au moins une vertu. Elle s'est chargée de nous rappeler que nous ne maîtrisions rien. Combien de personnes étaient à l'aube d'un nouveau projet qui n'a jamais vu le jour ? Combien avaient une entreprise financièrement stable qui s'est retrouvée dans le rouge ? Combien de couples ont dû reporter à une date complètement indéfinie la célébration de mariage qu'ils avaient mis des mois à préparer ? Pour ma part, j'étais enceinte au début du Covid. Je devais accoucher très peu de temps après le début du premier confinement. Et puis, comme dans tous les domaines, on attendait de savoir ce que l'on pourrait faire ou pas et avec qui. Bon, accoucher, je n'avais pas vraiment le choix. Mais avec ou sans mon mari, ça, c'était moins clair. Pourtant, notre projet, il était ficelé. Ben serait présent pour la naissance de Chloé, c'était évident. Et il se trouve que les maternités de notre région ont finalement décidé d'accepter les papas en salle de naissance. Mais ça n'a pas été le cas partout. De nombreuses mamans se sont retrouvées, entre guillemets, seules pour accoucher. J'avais également autour de moi plusieurs personnes proches qui ont été enceintes pendant le Covid et qui ont énormément souffert de ne pas pouvoir partager ces moments précieux avec leur famille, avec leurs amis. Ce désir, il est pourtant légitime. Il n'y a aucun mal à vouloir partager son bonheur avec les autres. Et pourtant, à ce moment-là, nous ne maîtrisions même plus ce besoin élémentaire. Nos projets de bonheur semblaient une nouvelle fois contrariés. L'Ecclésiaste établit le fait que les circonstances de la vie sont imprévisibles, ce qui conduit à des actions incohérentes. Mais au fond, pourquoi ? Eh bien, je crois que nous subissons tous les conséquences de la chute. Adam et Ève se sont rebellés contre Dieu. Les conséquences, elles ont été terribles. Le péché est entré dans le monde. Et l'harmonie et la bonne marche du monde a été perturbée. Pour un temps, la terre est soumise au pouvoir de Satan, qui cherche à nous détourner de Dieu, à nous faire douter de sa bonté, et il ne ménage pas ses efforts pour y parvenir. Mais, parce qu'il y a un grand mais, son pouvoir est limité en action et en temps. Car le roi, ce n'est pas lui. Et le pouvoir que Satan exerce reste pleinement et totalement soumis au pouvoir de Dieu et à sa souveraineté. Dieu n'a pas perdu le contrôle. Et là, on commence à faire face à un sujet un peu délicat, qui nous tourmente souvent, et qui est d'ailleurs l'un des principaux arguments brandis pour s'opposer à l'existence de Dieu. Un Dieu bon et au contrôle, face à un monde plongé dans la souffrance. Il y a dans notre pensée humaine une incompatibilité entre ces deux réalités. Et parfois, ces questions, elles nous perturbent profondément, nous aussi, en tant que chrétiens. Dieu, si tu es aussi bon que tu l'annonces dans ta parole, pourquoi ? Pourquoi toutes ces souffrances ? Pourquoi la maladie qui emporte injustement des personnes ? Pourquoi des choses qui sont pourtant bonnes nous sont retirées ? Pourquoi tous ces bouleversements qu'on n'a jamais désirés ou qu'on n'a même pas provoqués ? La Bible ne répond pas. Dieu n'a pas répondu aux questions de Job concernant les raisons de toutes ces souffrances. Le bien-être de Job a été complètement brisé par Satan. Et on sait dans ce livre que Job était intègre devant Dieu, que sa souffrance n'était en aucun cas la conséquence de ses actions. Et pourtant, elle ne lui a pas été épargnée. Et Dieu a tout vu. Et Dieu ne se justifie pas. Dieu ne rend pas de compte. Pour autant, cela ne signifie pas qu'il est indifférent à la souffrance de Job. Dans la parole, nous voyons Dieu qui compatit à toutes nos souffrances. Et là, face à Job, Dieu se place en créateur du monde, un monde immense, un monde harmonieux, un monde avec beaucoup de choses qui restent encore mystérieuses pour nous. Et finalement, Job en vient à reconnaître pleinement la souveraineté de Dieu. Je vous invite à lire avec moi dans Job, chapitre 42, versets 1 à 6. Job répondit alors à l'Éternel : Je sais que tu peux tout et que rien ne saurait t'empêcher d'accomplir les projets que tu as conçus. Qui ose, disais-tu, obscurcir mes desseins par des discours sans connaissance ? Oui, j'ai parlé, sans les comprendre, de choses merveilleuses qui me dépassent et que je ne connaissais pas. Écoute, disais-tu, c'est moi qui parlerai, je vais te questionner et tu m'enseigneras. Jusqu'à présent, j'avais seulement entendu parler de toi, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Aussi je me condamne, je regrette mon attitude, en m'humiliant sur la poussière et sur la cendre. Cette confession incroyable de Job, il l'a fait alors qu'il est encore au cœur de la souffrance. Dieu ne l'a pas rétabli et Job ne sait pas si Dieu le fera ou non. Ce sont les paroles, les mots que Dieu a prononcés envers Job dans les deux chapitres précédents qui ont produit cet effet. Job accepte de faire confiance à Dieu. Il s'en remet à la certitude de la bonté de Dieu, de sa puissance, de sa sagesse dans toutes les circonstances de sa vie. Et c'est à ce même abandon, à cette même confiance totale que Dieu nous invite aujourd'hui. Dieu maîtrise tout, même le temps de la souffrance la plus atroce et la plus incompréhensible. Rien ne lui échappe et le temps de nos vies ne fait pas exception. Justement, revenons à l'Ecclésiaste et à notre réflexion sur le temps. Le maître a constaté l'imprévisibilité des circonstances et l'impossibilité pour l'homme de maîtriser le temps. Finalement, quelle est sa conclusion ? Dans Ecclésiaste 3, verset 11, on peut lire « Dieu fait toute chose belle en son temps. Il a implanté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité. Et pourtant, l'homme est incapable de saisir l'œuvre que Dieu accomplit du commencement à la fin. » Eh bien, le maître, lui aussi, arrive à la conclusion que Dieu maîtrise le temps et les circonstances et que tout cela aboutit à notre bien. Il déclare sa foi dans la souveraineté de Dieu, tout tout en reconnaissant qu'il est incapable, tout comme nous, de comprendre ce que Dieu fait. Mais ça ne l'empêche pas de lui faire confiance. Donc, Dieu maîtrise le temps et les événements aboutissent à notre bien. Pourtant, nous avons parlé un peu plus tôt de notre quête du bonheur et que bien souvent, le temps représente un obstacle pour nous dans cette quête. Là, il y a comme une différence de point de vue entre les deux. Pour essayer de la comprendre, je voudrais qu'on puisse confronter notre vision et notre compréhension du bonheur avec ce que Dieu nous dit. Comme on l'a vu précédemment, l'Ecclésiaste s'est lancé dans la quête du bonheur. À quoi a-t-il abouti? Et on va le lire dans le chapitre 5, les versets 17 à 19. « Voici ce que j'ai constaté. Le bonheur qui convient à l'homme est de manger, de boire et de jouir de ce qui est bon au milieu de son travail qui lui donne tant de peine sous le soleil pendant les jours que Dieu lui donne à vivre. C'est là ce qui lui revient. En effet, si Dieu donne à un homme des richesses et des biens et s'il lui accorde la possibilité d'en profiter, de retirer ce qui lui revient et de retrouver de la joie dans son travail, c'est un don de Dieu. Car lorsque Dieu remplit son cœur de joie, cet homme ne s'appesantit pas sur sa vie. » Est-ce que ce texte nous parle d'un état de bonheur enfin atteint? Est-ce qu'il nous parle d'éléments qui se sont mis en place dans la vie d'une personne, de cases qui sont toutes cochées et qui permettent d'accéder au bonheur? Non. L'Ecclésiaste, d'après son expérience de la vie et de l'activité humaine, en arrive à la conclusion que le bonheur, c'est de manger, de boire, de jouir de ce qui est bon au milieu de son travail qui lui donne tant de peine, et que ça, c'est la part qui revient à l'homme. Autrement dit, le bonheur n'est pas une fin en soi, le résultat d'une quête, mais nous le trouvons quand nous saisissons les bonnes choses de notre vie quotidienne, car toutes ces choses, ce sont des dons de Dieu. Dieu nous incite à la reconnaissance. Dieu nous incite au contentement. Alors vous allez me dire, d'accord, soit, mais pour nous qui avons tous les jours quelque chose à manger sur notre table, c'est peut-être plus facile de jouir du bonheur et d'être reconnaissant, non? Je crois que si Dieu se fait présent envers nous et nous accorde ses dons, ici, il se fait présent aussi envers nos frères et nos sœurs, au cœur d'une prison infecte, en Corée du Nord, en Érythrée, ou plus près de nous, dans une chambre à l'hôpital de Chambéry, ou mettez l'endroit que vous voulez. Dieu, lui, ne doute pas de sa bonté et de sa capacité à être auprès de nous. C'est nous qui en doutons souvent. Mais alors, à quoi sert notre vie sur la terre, si c'est pas à nous rendre heureux? Pour ma part, j'ai beaucoup cheminé, sans m'en rendre compte, aux côtés de mon mari. Alors tous les deux, on n'a pas vécu la même enfance, on n'a pas été confrontés aux mêmes difficultés. Lui, il a dû développer très tôt sa confiance en Dieu et trouver sa présence au sein même de la difficulté. Et finalement, il a soumis son bonheur à Dieu. Autant de mon côté, sans avoir eu une enfance parfaite, j'ai été préservée de beaucoup de choses, si bien que je n'ai pas vraiment questionné la bonté de Dieu dans ma vie et ses plans pour moi. C'est une fois devenue adulte que je me suis retrouvée confrontée à ces questionnements. Et jusqu'à encore récemment, j'ai dû me confronter à la réalité de mes attentes profondes envers la vie et envers Dieu. Et je me suis aperçue que beaucoup de choses dans ma vie étaient centrées sur l'attente d'un avenir meilleur, sur l'attente d'un plus grand bonheur familial, sur le désir d'atteindre un plus grand épanouissement. Et je crois que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Je constate combien la société dans laquelle nous vivons, une société riche, habituée à un certain niveau de confort, très en attente de solutions rapides, eh bien, elle nous influence dans notre vie chrétienne et dans notre relation avec Dieu. Dieu est bon, il est juste, j'ai sa faveur, évidemment qu'il me promet le bonheur. Jusqu'au jour où il y a un grain de sable dans les rouages, une difficulté, une réponse à la prière qui ne vient pas ou qui n'est pas celle que j'attendais. Et là, c'est la crise, la remise en question. Alors peut-être pas de la foi, mais en tout cas, notre image de Dieu est abîmée. Eh bien, heureusement, j'ai envie de dire, parce que le Dieu dans lequel j'ai placé mon espérance, je l'ai involontairement, mais quand même, placé dans une petite forteresse, quatre murs bien solides, sécurisants, qui contiennent ma définition de qui est Dieu et de ce qu'il est censé faire pour moi. Mais Dieu est bon, alors régulièrement, il vient déstabiliser ce que l'on croyait solide dans notre foi. Parfois, ce sont des petites secousses, parfois de gros chocs. Mais c'est l'action du Saint-Esprit qui casse, brique par brique, les quatre murs dans lesquels nous avons enfermé Dieu. Finalement, ce passage de l'Ecclésiaste nous présente-t-il le bonheur comme une quête ? Non. Il nous présente le bonheur comme un cadeau de Dieu, un cadeau qui s'inscrit dans le plan d'un Dieu qui est fondamentalement bon, qui a créé le monde et qui continue d'en prendre soin, conformément à sa volonté. Et ce n'est pas tout. N'y a-t-il pas un bonheur parfait, total, absolu, que Dieu nous promet ? Un bonheur qui surpassera tout ce qu'on peut imaginer ou même espérer ici-bas. N'y a-t-il pas une espérance qui est le fondement et l'objectif de notre foi chrétienne, un temps qui nous est annoncé ? On sait que la manifestation du pouvoir de Satan aura une fin. Il est d'ores et déjà condamné et il le sait. Quand Jésus reviendra, il jugera chacun de nous. Et pour tous ceux qui l'auront accepté comme leur sauveur et leur Seigneur, eh bien nous vivrons avec lui, pour toujours, dans sa gloire, dans son amour. Dieu va nous sortir de notre condition humaine présente et il va renouveler toutes choses. Et je vous invite à lire avec moi dans l'Apocalypse de Jean, le chapitre 21. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Et celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. » Nous espérons cette délivrance. Nous en avons la certitude. C'est le bonheur ultime que nous espérons. Mais en attendant qu'il se manifeste, nous devons continuer à vivre notre vie terrestre telle qu'elle se présente à nous, dans la foi en Dieu, dans la sécurité que nous offre sa souveraineté, dans la certitude que Dieu fait toutes choses bonnes pour ses enfants et qu'il est au contrôle des temps et des circonstances. Alors pourquoi une vision erronée, tordue du bonheur vient perturber notre rapport au temps ? Car lorsque nous considérons le bonheur comme l'accomplissement de nos projets, de nos rêves, de nos aspirations, je serai heureux quand, je serai épanoui quand, ou alors comme la mise en conformité avec les diktats de la société, je serai enfin heureuse quand j'aurai perdu 5, 10, 15 kilos, ou quand j'aurai une maison avec un beau jardin, ou quand mon mari aura enfin un travail stable, sans nous en rendre compte, nous détournons du bonheur véritable que Dieu nous offre. Et nous nous plaçons sous une pression que Dieu ne nous impose pas. La pression du temps qui passe, la pression de l'âge, la pression de l'efficacité, la pression de la réussite visible, quantifiable, nos réalisations sur Terre. C'est comme si on considérait notre vie comme un puzzle auquel il manque toujours la dernière pièce, celle qui nous rendrait vraiment satisfaits. Pour conclure, et en résumé de tout ce qu'on a partagé, sommes-nous prêts à croire que Dieu est parfaitement bon au cœur d'un monde mauvais ? Sommes-nous prêts à croire que le temps est dans les mains de Dieu ? Dieu n'est-il pas capable de racheter le temps, même celui qu'on a gâché dans notre folie et notre désir d'indépendance, comme dans le livre de Joël où le peuple se repent et Dieu lui accorde ce qu'il a perdu pendant le temps de son péché ? Dieu n'a-t-il pas été capable de rendre féconde une femme de plus de 90 ans, Sarah, l'épouse d'Abraham, alors que l'horloge biologique avait sonné depuis bien longtemps ? Dieu n'a-t-il pas été capable de redonner la joie à une femme qui avait changé son nom en Mara, qui veut dire amère, tellement sa vie était douloureuse ? Je parle de Naomi. Dieu n'est-il pas capable de nous donner des bonnes choses, même pendant que nous dormons, comme nous le rappelle le psaume 127, juste parce qu'il nous aime ? Je crois que Dieu veut nous soulager de la pression du temps, que ce soit dans nos activités quotidiennes ou à l'échelle de notre vie. Vous vous souvenez de mon expérience amère vis-à-vis du temps, avec ma quête de spiritualité échelonnée sur 10 ans. J'ai tenté d'atteindre la satisfaction et j'ai échoué. J'ai tenté de maîtriser le temps et c'était vain. Le maître du temps, c'est Dieu. Et il nous dit, fais-moi confiance. Chaque jour, un peu plus. Un pas après l'autre. Une expérience après l'autre. Dieu nous appelle à abandonner notre quête du bonheur illusoire, d'une vie enfin satisfaite. Et il nous invite à embrasser le contentement, la satisfaction, le bonheur qu'il nous offre jour après jour. Et ce n'est pas de la résignation. Au contraire, c'est là le chemin du vrai bonheur. Parce qu'en réalité, notre bonheur, il dépend entièrement de lui. Je vous invite à prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu nous dis qu'elle est une lumière sur notre chemin. Et on veut laisser cette lumière briller. On veut laisser cette lumière entrer dans les recoins de nos cœurs, de nos pensées, de nos certitudes. Et on veut te laisser éclairer les zones d'ombre, les zones qui ne sont pas, peut-être pas très claires devant toi, pas très droites, qui ne sont pas alignées avec ce que toi tu veux nous faire vivre, Seigneur. Et on veut vraiment se soumettre à l'action de ton esprit, parce qu'elle est bonne, parce que tu es bon, parce que tu agis avec douceur et avec fermeté, avec efficacité. C'est toi qui accomplis l'œuvre qui nous rend meilleurs, l'œuvre qui nous rend plus proche de toi, l'œuvre qui nous transforme, l'œuvre qui nous rend vraiment heureux. Et on veut te faire confiance dans ce chemin. Amen.